Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Littérature et bière glacée.
Grande Fleur Café.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Fleur Café par Hugues Robert.
Bonsoir, très heureux de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, ce sont les mots qui sont à l'honneur chez Grande Contrôle. Et donc, on va parler de mots dans plusieurs acceptions. Alors, on va parler d'écriture, on va parler d'apprentissage de l'écriture, de perfectionnement de l'écriture, d'usage de l'écriture, parfois un peu détourné peut-être de ce qu'on imagine naturellement, avec deux invités qui nous ont fait la gentillesse de venir donc ce soir. Charlotte Steisel pour Les Mots, qui est une école d'écriture, et Vincent Avanzi, qui est le Chief Poetic Officer. Il nous dira tout à l'heure ce que ça veut dire exactement, de la plume du futur. Donc, les ateliers d'écriture, c'est quelque chose qui à la fois a l'air d'être très ancien, on sait qu'il en existe depuis des dizaines d'années, et pourtant, c'est toujours plus actuel. On en parlera tout à l'heure, est-ce qu'il y a un développement des ateliers d'écriture, est-ce que ça change les ateliers d'écriture, mais peut-être on va commencer par Charlotte Steisel qui va nous expliquer ce que font les mots, l'école.
Hein. Les mots, l'école. Oui, merci Hugues. En effet, c'est marrant ce que tu dis, parce que les mots, c'est une école d'écriture qui a ouvert à Paris il y a presque 2 ans, dans le 5e arrondissement, et qui se base sur quelque chose qui n'est pas nouveau, les ateliers d'écriture, ça existe depuis des années. Et malgré tout, les mots, c'est un projet qui est totalement novateur dans la manière de répondre à un besoin finalement d'énormément de Français. En français, on dit souvent qu'un Français sur 3 nourrit le désir d'écrire. Nourrit le désir d'écrire, oui, bien sûr, mais en fait, pour beaucoup de personnes aussi, le désir peut-être un jour d'être publié, ou en tout cas, ça reste un rêve et quelque chose qui fait partie du quotidien de beaucoup de personnes. Les mots, qu'est-ce que ça propose ? Ça propose des ateliers d'écriture, comme ça existe depuis des années, à la différence près que ces ateliers d'écriture, ils sont animés par des écrivains, des gens de métier. Donc, ce ne sont pas des animateurs, ils n'ont pas été formés pour donner des ateliers d'écriture. Ils viennent pour transmettre leur savoir-faire, en fait. Ils savent écrire, ils ont publié un certain nombre de livres. Ils font partie du domaine littéraire français. Et ils sont là avant tout pour transmettre ce qu'ils savent faire à travers la pratique, donc à travers des exercices qui vous permettent d'écrire. Ils vont faire jaillir un certain nombre de techniques d'écriture, bien sûr. Et puis aussi derrière... peut-être donner la légitimité à tout le monde d'écrire, c'est-à-dire que écrire, ça s'apprend bien sûr, mais ça s'autorise aussi. Il faut s'autoriser à écrire. Le pari des mots, du coup, c'était vraiment que l'écriture soit accessible à tous, ne pas se cantonner à une élite. Donc, on a par exemple des prix qui sont assez qui sont très démocratiques. On tourne autour de 380 euros pour un atelier de 20 heures. Donc on a 19 euros l'heure, c'est quelque chose quand même qui est assez démocratique et sur auquel on tient, puisqu'on voudrait vraiment que n'importe quelle personne puisse écrire et qu'en écrivant, elle apprenne à écrire. Puisqu'il n'y a rien à faire, c'est comme le sport, c'est comme la musique, c'est comme la danse, si on ne pratique pas, on ne peut pas s'améliorer. Donc il y a ce côté-là, bien sûr, venez pratiquer l'écriture et ainsi vous l'apprendrez. Mais pourquoi des auteurs publiés et non pas des formateurs, puisque finalement n'importe quelle personne pourrait faire pratiquer l'écriture, c'est que les auteurs publiés, ils sont passés par toutes les phases de l'écriture qui fait qu'un jour ils ont réussi. Ils se sont posé la question, est-ce que j'ai le droit d'écrire ? Ils se sont posé la question, est-ce que ce que j'écris intéresse quelqu'un ? Ils se sont demandé comment un jour ils arriveront à vendre leur texte à un éditeur. Quel était ce monde de l'édition ? Comment est-ce qu'on approche le monde de l'édition ? Donc, forcément, à travers les ateliers d'écriture, toutes ces questions-là jaillissent parce que les personnes ont des questions, certes, donc les auteurs peuvent y répondre, mais ces auteurs-là, dans la manière dont ils répondent à un texte, dans la manière dont ils corrigent un texte, ils ont déjà en tête toujours l'idée qu'un texte un jour pourra être publié. Mmh. Donc, ça n'est pas simplement, tiens, là, il y a trop d'adjectifs, ou tiens, la concordance des temps, ou ce texte-là, tu pourrais le commencer plus tard, mais il y a toujours cette idée... Comment faire finalement qu'une histoire soit une bonne histoire ? Comment faire qu'un personnage soit crédible ? Comment faire qu'un personnage existe, qu'une intrigue existe ? Et ça, ils l'ont inconsciemment à l'esprit. Donc, tous les retours qu'ils donnent tournent autour de comment écrire ? Alors, je parle de comment raconter une bonne histoire, parce que finalement, beaucoup de personnes viennent pour le roman, pour le storytelling, mais finalement, c'est la même question sur la poésie, sur le théâtre, sur le scénario, sur la BD, sur... qu'est-ce qu'on a dans un genre ?
Justement, j'avais une petite question sur ça, parce que c'est très intéressant que ce soit effectivement donc des praticiens hein, de l'écriture qui soient les intervenants, les guides, enfin les professeurs. En revanche, moi, ça me pose une petite question, peut-être naïve, hein, mais qui est compte tenu de la variété justement du champ littéraire et du fait que, à part peut-être sur quelques troncs communs, mais assez modestes malgré tout, de lisibilité, et encore, il y a tellement de manières en fait de pratiquer l'écriture. Est-ce que les auteurs intervenants arrivent quand même à se défaire de leurs propres idiosyncrasies, c'est-à-dire du fait que on n'est pas obligé d'écrire comme X ou comme Y.
Alors oui, heureusement surtout qu'on n'écrit pas comme X ou Y. C'est surtout ça, je pense, qu'on apprend dans un atelier d'écriture, c'est que il y a des personnes, par exemple, qui arrivent, et en plus on a le mot école, donc il y a des personnes qui arrivent avec une idée très scolaire de c'est comme ça, comment est-ce qu'il faut faire. Et ce qu'ils apprennent, c'est surtout ne faites pas comme les autres. Soyez surtout qui vous êtes, vous, et cultivez cette chose-là. Donc, finalement, un atelier d'écriture, pour moi, c'est une boîte à outils qu'on remplit avec ce qui nous intéresse. Donc, l'auteur, il va vous dire des choses qui vont vous toucher. Et, enfin, je parle de l'auteur et je parle finalement le retour du groupe aussi à travers les lectures de textes. Il y a des choses qu'il va vous dire, qui va vous toucher. Vous allez vous dire, mais ça, je me retrouve complètement là-dedans. Et ça, je le mets dans ma boîte à outils parce que je sais que je vais l'utiliser un jour. Et puis, il y a des choses qui ne vous parlent pas parce que ce n'est pas ça que vous cherchez spécialement dans l'écriture ou que ce n'est pas dans cette voie-là que vous allez. Et je pense que ce qui est important dans un atelier d'écriture, c'est ne pas surinvestir un atelier. Finalement, l'auteur, il est là pour transmettre quelque chose. Et c'est à vous de savoir ce que vous... Enfin, de savoir, ou en tout cas d'être ouvert à ce que vous pouvez... récupérer, que vous pouvez, comment vous pouvez enrichir votre bagage culturel, littéraire. Voilà, l'auteur, il n'y a pas une science infuse, mais finalement un peu comme les professeurs, je pense, quand on est jeune, hein, ils nous enseignent ce qu'ils savent et ce qu'ils aiment. Mais on peut toujours remettre en perspective.
Alors, j'ai une question qui est peut-être un peu indiscrète, mais que je poserai sous une forme voisine, en fait, je pense, dans quelques instants à Vincent Avanzi aussi. Qui dit école d'écriture ou qui dit intervention rémunérée autour de ces questions d'écriture pose une question bien entendue. Il y a la question du jugement, puisque un éditeur, lui, prend ou ne prend pas un manuscrit, le justifie plus ou moins. Mais en fait, s'il trouve que c'est mauvais, il n'est pas obligé de justifier de façon énorme. Ce qui est énorme. Énerve effectivement prodigieusement souvent des auteurs ou des autrices de manuscrits. Donc, bien entendu, si la finalité d'un atelier d'écriture n'est pas de juger la matière proposée, il y a quand même un aspect de qualité, est-ce que la personne, justement, entend ce que lui dit l'auteur ? Est-ce qu'elle réussit à s'approprier tout ou partie des techniques ou des idées qui ont été posées ? Et si ce n'est pas le cas, comment vous faites hein ? Parce que...
Alors, c'est une bonne question, effectivement.
Sans trahir de secrets déontologiques.
Hein, mais... Non, mais tu disais un truc qui est important, c'est qu'effectivement, on n'est pas là pour juger. Donc, finalement, savoir si un texte est bon ou pas bon, ça reste très subjectif et c'est l'avis de l'un ou de l'autre et ça n'a pas beaucoup d'intérêt, je pense. Ce qui est intéressant, c'est de savoir souvent si ce que la personne a voulu faire, l'intention que la personne a voulu mettre dans un texte est réussie ou non. Donc, j'en sais rien, moi, quelqu'un qui voulait faire rire tout le monde, voulait écrire un texte drôle et il se fait qu'à la fin, tout le monde pleure. Ça ne veut pas dire que c'est réussi ou pas réussi, mais c'est intéressant de se poser la question, tiens, pourquoi est-ce que ce que je voulais faire n'a pas fonctionné ? Et en fait, je pense qu'en étant confronté à ces limites, enfin, c'est pas ces limites, à ces réflexes peut-être, c'est intéressant de se dire, eh tiens, est-ce que ça, c'est pas une force que j'ai et j'appuie cette force, ou alors c'est pas ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que je fais pour le changer ? Mais l'auteur, la seule chose qu'il peut faire, c'est effectivement pointer du doigt en disant, bah là, l'intention, elle n'était pas tout à fait réussie. Enfin, c'est pas ça qu'on attendait du texte. C'est bien, c'est pas bien, on s'en fout, mais c'est pas ce qu'on attendait du texte. Maintenant, chacun en face le prend en disant, bah ok, je pourrais le changer parce que l'auteur il va proposer des techniques en disant, bah peut-être que si tu n'avais pas mis cette première phrase pour commencer et que tu avais commencé, tu nous mets directement avec ta première phrase dans un esprit tragique ou comique. Du coup, forcément, on lit tout le reste du texte dans cet état d'esprit. Peut-être que si tu changes simplement ta première phrase, tu changes tout le reste du texte. Mais donc ça, c'est ce que l'auteur peut faire, peut proposer des choses. En face, la manière dont c'est reçu, ça, c'est ce que je disais. Chacun, finalement, prend ce qu'il veut, prend les outils qu'il veut pour changer ou pour s'améliorer.
On va revenir tout à l'heure sur quelques exemples, justement, concrets de techniques ou d'éléments d'atelier. Voilà, je voulais demander Vincent Avanzi, donc Chief Poetic Officer de La Plume du Futur. Qu'est-ce qui différencie en fait La Plume du Futur ou qui en fait un peu sa spécificité en tant que intervenant, je ne sais pas si c'est une école, mais enfin en tout cas intervenant sur l'écriture et sur l'écriture plus spécifiquement poétique.
Moi, j'interviens en fait dans les cadres pour faire soit des ateliers d'écriture, des conférences, faire des discours poétiques pour ouvrir des conventions, que ce soit grand public ou en entreprise. Et ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est pas tellement les techniques d'écriture, c'est vraiment initialement le déclic d'écriture, c'est-à-dire qu'est-ce qui va donner en fait, qui va t'empowerer toi à se dire, ok, je peux faire rejaillir mon génie intérieur, mon âme de poète ou de poétesse pour pouvoir ensuite écrire.
On rejoint ce que disait Charlotte sur trouver la légitimité.
Exactement, et puis libérer la parole en fait, tout simplement. C'est ce qui m'intéresse en fait dans les mots. Moi, j'ai souvent, je suis un passionné de poésie en fait depuis mon adolescence, mais je suis pas amoureux des mots, je suis amoureux des lèvres de l'humanité. Et c'est vraiment ça, ou de la langue française, c'est vraiment ce truc-là, c'est-à-dire de regarder comment on peut faire rejaillir l'être humain dans sa plus belle version quand on libère la parole. Et typiquement, vous parliez de jugement tout à l'heure, moi j'organise jamais, en fait, c'est un parti pris, hein, mais de concours de poésie, justement parce que ce qui m'intéresse, c'est plus qu'en fait que chacun puisse écrire, s'exprimer, et justement dans mes ateliers, une partie d'écriture, ensuite de partage collectif des œuvres qui ont été créées en séance, parce que je me garderais bien de hiérarchiser une œuvre par rapport à une autre. C'est, entre guillemets, c'est pas mon combat ou c'est pas ma cause. Ce qui m'intéresse, c'est que chacun puisse être maître de son destin ou artisan de notre avenir, en l'occurrence, c'est-à-dire pas juste le sien, mais du nôtre. Et puis dernière chose que je voulais dire par rapport à ce que vous disiez, justement sur les génies, parce qu'il y a vraiment fondamentalement deux génies. Il y a le génie de la création, qui sont effectivement les auteurs, et puis il y a le génie de la transmission, et qui sont là plus pour le coup en fait donnés à ceux qui ont une pédagogie ou une capacité de former ou de transmettre quelque chose. Par exemple, Fabrice Lucchini, c'est un génie de la transmission lui, parce qu'il interprète, il redonne une autre vie à des textes anciens. Alors après, il y a la pédagogie qui est encore autre chose. Mais c'est vraiment deux génies vraiment différents. Et j'imagine que les auteurs que vous prenez dans l'association Les Mots sont, entre guillemets, font le lien entre les deux. Moi, j'utilise vraiment ça, en fait. C'est-à-dire que c'est un prétexte, l'écriture poétique, à libérer la parole, à se connecter à soi, à son essence, à son être. Moi, je me définis aussi comme un homme de lettres. Mais dans l'être, L'ETRE, parce que c'est justement ça, en fait, c'est le côté humain en fait, qu'on peut véhiculer à travers les mots. Et comme on dit souvent que les mots précèdent la réalité, aujourd'hui, là, on est en train de regarder comment inventer un nouveau récit, un nouveau narratif pour l'avenir, pour donner envie en fait, aux êtres humains de contribuer à l'avenir commun de l'humanité.
Ce qui est intéressant dans ce que vous dites tous les deux et dans ce que vous pratiquez en fait hein, au quotidien dans deux univers donc qui sont parallèles même s'ils sont différents,
C'est par rapport à tout ce qui se dit, ce qui s'entend, ce qui se lit, sur le fait que bon, les lettres, la littérature, la poésie en particulier, c'est quelque chose qui va mal, qui est plus quelque chose du passé que du futur. C'est que visiblement, que ça soit une demande sociétale venant d'individus par l'intermédiaire en fait d'associations ou d'entreprises, cette demande elle est bouillonnante et qu'il y a vraiment quelque chose. Comment vous interprétez en fait ce décalage entre une perception générale un peu, oui bon, enfin la littérature, la poésie, c'est bien gentil, mais ça sent un peu la naphtaline tout ça, et puis le fait que non, au contraire, c'est extrêmement vivant et qu'il y a une demande, y compris une demande qui est enfin solvable.
Je commence sur la poésie, après je te laisserai ouvrir le champ des possibles sur toute la littérature. Moi, je me suis donné comme mission de vie de repoétiser la société. Pierre Rabhi disait qu'on a dépoétisé nos sociétés modernes, c'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre la poésie et le poétique, c'est-à-dire habiter poétiquement le monde, et puis aussi, en fait, à la base, les poètes, la poésie en grec ancien, ça veut dire créer, faire, donc le poète, c'est à la fois un dreamer et un doer, donc un acteur du changement autant qu'un rêveur, et un créateur de nouveaux mondes, et en fait, initialement, les poètes étaient au centre de la cité pour dessiner un horizon, un idéal, en fait, à l'avenir de la République ou de la société dans laquelle il évoluait. Et ensuite, il y a eu des griots, d'autres choses, etc. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, la poésie est vraiment très marginalisée, encore plus que la littérature, pour le coup. Moi, justement, ce que j'essaie de faire, c'est de la déstructurer pour la moderniser ou la mettre dans des lieux où elle n'est pas là, visible, entre guillemets, pour redonner goût à cela et peut-être en lien avec l'éducation qu'on a tous reçue, c'est-à-dire... au collège ou en primaire, parfois on entre dans la poésie, ce dont on se souvient en tout cas, c'est d'avoir dû faire des commentaires composés d'œuvres classiques, anciennes, ou de les apprendre par cœur, plutôt que d'écrire soi-même des poèmes. Et je pense que l'essence même de la poésie, c'est vraiment d'écrire soi, en fait. D'écrire et se décrire. Moi, les deux vertus principales que je vois dans la poésie, la première, c'est le champ lexical, donc le trouver le mot juste dans notre communication au présent, et le champ des possibles pour contempler l'idéal et se projeter dans notre avenir.
Si, ça fait quelques années, enfin si je ne me trompe, parce que c'est une époque lointaine pour moi, mais que au niveau du bac français, en tout cas en France, ça a été introduite justement à la place d'une des deux dissertations, une épreuve de création littéraire, hein. Ce qui est relativement récent, enfin ça a une dizaine ou une quinzaine d'années, pas davantage, je crois pas. Donc c'est quand même aussi un symptôme de quelque chose.
Oui, clairement, de toute façon, en fait, de manière plus large, en fait, dans l'éducation, en fait, les méthodes d'enseignement changent beaucoup, en fait, plutôt que des cours magistraux où on vient vers quelque chose qui est plus sur l'épanouissement, le développement des talents des enfants, etc. Et donc, justement, il y a beaucoup de cours qui sont interactifs, où il y a des créations maintenant, en fait, d'œuvres par les élèves. Donc, c'est en train de changer. Mais on a toujours cette perception sociétale de, pour le coup, la poésie qui est quelque chose de marginalisé. Et en plus, on le voit en fait dans les chiffres de vente des recueils de poésie ou des soirées poétiques, où en fait, c'est juste, y a juste des poètes qui viennent en fait à ces soirées-là plutôt que des gens qui ont juste envie d'écrire un petit peu. Mais c'est aussi lié au... Je sais pas pourquoi, pour le coup, que la sacralisation de la poésie, en fait, est telle que les gens ont l'impression que c'est réservé à un génie élitiste. Ou un génie passé, ou on peut pas. Je dis souvent en fait en conférence que quand je regarde les gens, en fait, je vois pas de nouveau Picasso. Par contre, ce que je vois, c'est quelque chose d'encore plus beau, c'est d'être vous-même. Et c'est justement ça, en fait, de moderniser, puis soit en fait de s'emparer d'un art et puis de le refaire rejaillir de soi.
Alors, on rejoint une chose qu'évoquait tout à l'heure Charlotte, mais que à demi-mot, je me permets de l'interpréter, c'est qu'il y a une. Effectivement, on n'est pas dans un travail ni de jugement, ni d'évaluation, ni. Même si ça peut évidemment toucher des questions ensuite d'avenir éditorial de quelque chose qui a été produit dans le cadre d'un atelier d'écriture ou qui a été ébauché dans le cadre d'un atelier d'écriture. Mais il y a vraiment une dimension de développement personnel, enfin, au sens entreprise et contemporain du terme, enfin, personnel. Est-ce que ça rejoint, enfin, l'expérience donc, de la demande que vous rencontrez chez les mots, Charlotte ?
Mais totalement. C'est vrai que cet épanouissement personnel, il est assez étonnant. Et je pense que c'est ça qui fait effectivement que les... Enfin, moi, ce que j'aime par exemple beaucoup dans l'existence de cette école, c'est qu'elle ne crée pas un besoin, elle répond à un besoin. Un besoin qui existait, bien sûr, mais enfin, qui avait déjà été comblé par d'autres personnes. Mais les gens ont besoin d'écrire, en fait. C'est vraiment... pour moi, l'écriture, c'est quelque chose d'assez proche de l'instinct humain, finalement. Parce qu'on peut écrire... Il y a des personnes qui écrivent en parlant. Il y a des personnes qui écrivent en dessinant. L'écriture, ça n'est pas non plus que faire des lettres. Écrire, c'est aussi, c'est pour moi, c'est presque un synonyme de s'exprimer, enfin, de fait de s'exprimer, écrire. Et les gens ont besoin de ça. Et effectivement, dans un atelier d'écriture, souvent, il y a une juste mesure entre le besoin de venir, le besoin d'écrire, et puis après une envie derrière d'en faire autre chose. Et c'est deux choses qui sont jointes, qui sont conjointes. Voilà, donc pour moi.
On va revenir dans quelques instants sur justement ce besoin, disons-le, individuel et sociétal, en fait, autour de la littérature et de la poésie, la façon dont on peut y répondre aujourd'hui. Mais avant ça, la pause musicale. Après P.J. Harvey, qui parlait aussi de mots, mais d'une façon un peu différente. On revient donc avec Charlotte Staisel, Les mots, école d'écriture, et avec Vincent Avanzi, La plume du futur, donc le Chief Poetic Officer. Pour poursuivre en fait notre discussion, notre réflexion commune, c'est un aspect que je trouve assez fascinant, c'est que dans bien des cas, ce qui différencie l'atelier d'écriture de la leçon un peu personnalisée ou du fait même pour un apprenti écrivain, quel que soit son projet personnel, que ce soit on a dit pour le loisir, ou que ça soit dans un but plus ambitieux, enfin, si j'ose dire, qui est, on peut aussi, y a un certain nombre d'auteurs qui, souvent avec un certain talent, se sont aussi préoccupés d'une forme de transmission qui est à la fois de poser une position critique et donc d'écrire en fait sur la littérature, pas nécessairement sur la leur, éventuellement aussi sur la leur, et qui d'ailleurs est un champ littéraire en soi passionnant. Mais une des caractéristiques de vos travaux, enfin de ce que vous mettez en œuvre, c'est que les apprentis écrivains, les apprentis poètes, alors moi je dis apprenti, c'est sans doute pas le bon terme, hein, mais se retrouvent finalement à un moment et acceptent ce pari qui n'est pas si facile de commenter ou de s'exprimer en fait aussi sur le travail des autres. Hein. Et est-ce que c'est quelque chose qui est facile, naturel, oui, délicat?
C'est vrai qu'effectivement, le fait d'être en groupe, il y a souvent une petite gêne, disons, la première séance où les gens se disent « mais je dois lire mon texte devant tout le monde ». Parce qu'évidemment, écrire, c'est quand même quelque chose d'assez personnel, enfin intime, en tout cas pour beaucoup de personnes, même si la fiction, les gens qui écrivent de la fiction qui parlent dans des choses complètement, qui n'ont rien à voir avec leur vie, il y a quand même beaucoup de personnes qui écrivent des choses très personnelles. Et c'est vrai que le retour du groupe peut poser des questions au tout début en disant « mais est-ce que moi j'ai vraiment envie de lire mon texte devant tous ? Il m'appartient à moi ?»
Puis on pense à certains écrivains formidables qu'on connaît tous, pourrait y avoir l'aspect « mais comment peut-on écrire des horreurs pareilles ?»
Mais oui, mais après, quelque part, finalement, tout le monde est un petit peu dans la même dynamique, c'est-à-dire que tout le monde, à un moment, se livre, et y a une bienveillance naturelle qui s'installe. Les participants lisent leur texte avec beaucoup de sincérité, c'est très touchant souvent, c'est assez étonnant, et les gens le reçoivent en face avec la même sincérité, donc la même sincérité qui peut effectivement dire de temps en temps tiens c'est marrant, moi j'ai pas accroché ou j'ai rien ressenti, dans un cadre qui est toujours bienveillant. Alors, je fais juste une petite parenthèse parce que effectivement dans l'école Les Mots, on a deux types d'ateliers. On a des ateliers qui sont vraiment sur le... C'est pas le loisir, mais qui englobe le côté loisir. Donc il y a des, c'est un peu une initiation à l'écriture, c'est une découverte de l'écriture, c'est oser sortir de sa zone de confort, c'est chercher des nouvelles techniques. Donc c'est vraiment des ateliers un peu initiation, découverte, où à travers des exercices donnés, c'est à travers un exercice précis, les personnes vont écrire un texte et il y aura un retour sur ce texte-là. Et en parallèle, on a des ateliers qui sont vraiment du suivi de manuscrits, donc ces personnes qui arrivent avec un projet d'écriture, ils sont sur un projet qui est personnel, ils n'ont pas envie de perdre du temps spécialement à faire des exercices qui n'ont rien à voir avec leur projet ou qu'ils n'arrivent pas à détourner pour avancer sur leur projet, et ils veulent avoir un suivi sur ce qu'ils sont en train d'écrire. Et là, le groupe prend encore une autre dimension. C'est-à-dire que le groupe, il a bien compris que c'est un des groupes qui sont assez petits, c'est de 6 à 8 personnes. Et les personnes de ce groupe sont tous dans la même dynamique. Elles ont envie d'avancer sur leur manuscrit. Elles ont envie que leur manuscrit, un jour, soit publiable. Enfin, en tout cas, soit publié. Donc, le rendre publiable. Et du coup, le groupe, dans ces cas-là, vraiment est un apport assez incroyable, puisque ce sont et des personnes qui écrivent, qui vivent la même chose, qui savent ce que c'est de temps en temps d'avoir un moment difficile, un passage où on bloque dessus, un moment où on se demande comment est-ce qu'on va faire encore avancer son intrigue ou son histoire, et en même temps qui ont bien conscience que s'ils veulent amener leur livre plus loin, leur histoire plus loin, leur manuscrit plus loin, ils doivent se heurter à leurs limites, ils doivent entendre des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'ils ont envie d'entendre, mais qui leur permettent ensuite de se positionner en disant, je prends un exemple, quelqu'un à qui on va dire, mais tiens, toi, par exemple, c'est très grand public, ou ça manque peut-être un peu de poésie. La personne, quelque part, c'est pas la chose la plus... Enfin, on parle de poésie, c'est agréable d'avoir quand on écrit, d'avoir une plume ou moins plate, par exemple, qui va s'envoler un petit peu plus, et s'entendre dire, tiens, toi, ton histoire, elle est efficace, elle avance, mais on manque d'image, on manque de poésie dans le texte. Ça permet à cette personne-là de se poser la question, tiens, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire ? Est-ce que moi, j'ai envie de faire des textes avec des métaphores dans toutes les pages ? Ou est-ce que j'ai envie d'écrire une histoire efficace, qui avance, où le lecteur suit cette histoire sans trop se poser de questions ? Ça, c'est intéressant d'avoir des retours de lecteurs écrivant qui font des retours dans un but constructif, donc pas pour dire j'aime ou j'aime pas, mais dire tiens c'est marrant, là moi ça m'a pas transporté parce que ça manquait de poésie. Bah, la personne qui écrit ce texte-là, elle a l'occasion dans un cadre bienveillant de se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie d'écrire et comment j'ai envie de l'écrire ? Voilà.
Et du coup, alors, dans un environnement d'entreprise où, a priori, dans bien des situations, les gens se connaissent au préalable, puisqu'ils sont des collègues de travail, plus ou moins proches, mais en tout cas, où il n'y a pas ce facteur qui joue dans les deux sens, hein, mais de foule anonyme, de gens, bon, après tout, ces gens, je vais devoir me livrer devant eux, mais je ne les connais pas et je ne les reverrai jamais, enfin, peut-être. Dans un entreprise, est-ce qu'on retrouve les mêmes pièges vis-à-vis de la libération de la parole poétique, ou est-ce que, justement, il y a un savoir-faire spécifique
Il y a deux angles différents en fait d'écriture. Il y a un angle thérapeutique et un angle utopique. Et l'angle thérapeutique est beaucoup utilisé, notamment sur la poésie, c'est-à-dire pour décrire la misère de sa condition humaine, souvent. Donc c'est quelque chose de très personnel, parfois dur, etc. Et puis il y a aussi quelque chose, donc avec le jeu. Et après il y a quelque chose qui est sur l'utopie, donc de le nous tourné vers l'avenir. Moi, dans les ateliers en entreprise ou même en fait avec des acteurs du changement ou même des personnes qui cherchent leur voix, parce que ça a le but en fait de trouver leur voix grâce à une projection dans l'avenir via un outil poétique, c'est le but, c'est qu'ils puissent s'exprimer sur leur rêve d'avenir. Et en fait, dans l'expression de leur rêve d'avenir, il y a un côté retour à l'enfance. On est sur le rêve, sur l'utopie, sur l'émerveillement, sur le réenchantement. Et en fait, les récitations de leur parchemin de demain, ça qu'ils écrivent, en gros, ce sont des spectacles humains juste absolument sublimes. Parce qu'il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui est en accord avec ce qu'elle dit et ce qu'elle fait. Si vous écrivez un poème et moi je le récite, ça va être sympa. Si vous l'écrivez, vous le dites, on va vous sentir vibrer, trembler, pleurer, et c'est ça qui va en fait transmettre une vraie émotion vraiment très forte en fait, parce qu'elle est vraie, elle est vraiment authentique, naturelle.
Alors sauf si l'un de nous est un grand transmetteur, comme vous le mentionniez tout à l'heure pour Fabrice Luchini, par exemple.
Exactement, mais c'est une exception. Mais sinon, et c'est là où ce que ça crée en fait au sein d'une équipe aussi, c'est que ça crée une vraie connexion humaine déjà à soi, parce qu'on s'est libéré, on s'est exprimé tel qu'on est vraiment, sans masque de société, et puis aussi en fait une connexion au groupe en fait, parce qu'on s'est découvert soi, mais on s'est présenté à l'autre tel qu'on est vraiment. Et en fait, ça crée une vraie... C'est pour ça que c'est des ateliers à la fois de créativité et de team building, parce que ça crée une vraie connexion humaine entre les participants et une projection dans notre avenir commun, sur un horizon commun. Parce que souvent, en fait, quand on regarde, les rêves d'avenir de chaque être humain sont à peu près les mêmes. C'est notre dénominateur commun aussi. Qu'est-ce qu'on souhaite vraiment? Qu'est-ce qu'on partage aujourd'hui? Et c'est là où, en fait, ça permet de dessiner un idéal vers lequel on peut tendre. Donc, ça dessine un cap, un horizon, et ensuite, on avance ensemble. Et le but étant vraiment d'épanouir les jeux, J-E, pour les engager dans le nous, dans l'aventure collective de l'entreprise de demain, et l'entreprise étant, dans le sens large du terme, juste passer à l'action, en fait.
Alors, j'aime bien cette idée de la façon dont l'individu et le collectif dans les deux cas vont interagir, c'est qu'il y a quelque chose effectivement qui se produit un petit peu
atelier d'écriture où les gens ne se connaissent pas, les gens créent quelque chose de très fort. Les groupes, à la fin de 8 à 10 séances, même sur un temps plus court, sont vraiment soudés. Il y a quelque chose de très fort qui s'est passé, c'est assez impressionnant.
Mais c'est quelque chose qu'on entend dans vos paroles, c'est qu'effectivement, en tout cas, toutes les fois où ça fonctionne bien, il y a quelque chose de fort, en tout cas, qui se passe et qui se crée et qui probablement demeure effectivement à l'issue, même quand ce n'était pas prévu.
Qui demeure et qui sert au texte souvent, très souvent, finalement.
Alors, je me posais une question sur un public d'entreprise, puisque là, vous mentionniez une dimension, effectivement, de type développement personnel, mais il y a aussi du point de vue, donc, de la direction d'entreprise, l'accès à un outil de développement personnel, l'accès aussi, peut-être, à, justement, par la médiation poétique, orienté vers le futur, par un travail aussi sur le réenchantement, voire, pourquoi pas, la visée stratégique avec la part d'utopie bienvenue. Mais qu'est-ce qui peut, dans votre expérience, faire qu'une entreprise, justement, bascule, choisit plutôt cet outil-là par rapport à un ensemble de possibilités aujourd'hui relativement riches ?
En fait, en entreprise, il y a plusieurs thématiques qui sont en vogue. La première, c'est le bonheur au travail, le bien-être au travail, donc l'épanouissement des salariés, la quête de sens. Et il y a ça, en fait, le lien entre l'art et l'entreprise. Comment l'art peut être un outil ou un vecteur de créativité. Donc là-dedans, effectivement, ça peut être du théâtre, de l'improvisation, des clowns, des serious games, d'autres choses, etc. Et notamment la poésie ou le conte. Et donc, c'est un parmi d'autres. Après, c'est c'est juste en fait une manière de créer des déclics aussi pour avancer ensemble et pour épanouir chacun des salariés. Après, la réponse par rapport à votre question tout à l'heure, c'était aussi de dire que si moi je les fais écrire sur leur rêve d'avenir et pas leur présent ou leur passé, c'est justement qu'ils n'entrent pas dans trop d'intimité, parce qu'on est quand même dans une sphère en entreprise où il y a une libération de la parole, mais juste jusqu'à un certain point. Et puis on veut pas non plus tendre dans le ridicule ou dans le trop intime pour qu'on puisse s'en servir contre nous. Donc c'est vraiment une projection vers notre avenir commun. Et donc en fait, chacun a l'occasion de s'exprimer en se mettant partiellement à nu, sans se mettre à risque.
Alors c'est marrant parce que le pur hasard fait que j'écoutais tout à l'heure en fait une émission assez ancienne sur France Culture en fait avec Milan Kundera, autour de Milan Kundera, et il y avait notamment François Taillandier donc qui s'exprimait sur le choc qu'avait été pour lui l'art du roman. Qui est pourtant un des ouvrages les plus ambigus de Kundera, parce qu'à la fois célébré et décrié, parce que justement il va à côté en tout cas d'un courant de théorisation en fait de l'écriture qui a habité 40 ou 50 ans de production, et notamment en France, et qui revenait sur et ça c'est François Taillandier qui le disait, que ce Milan Kundera balayait d'un geste un peu rapide en fait la poésie, parce qu'il l'assimilait au lyrisme et qu'il l'assimilait lui-même au kitsch. Et qu'en fait, si on accepte justement de reprendre ce que dit Kundera, mais en étendant simplement sa définition de la poésie, ça redevient totalement pertinent, parce que c'est une poésie n'a pas à être dépourvue de contenu et de contenu projectif notamment. Donc, il rejoint tout à fait ce que vous disiez là, c'est que c'est pas uniquement ciseler des mots, quoi. Hein,
Oui et non, c'est-à-dire oui et non, et l'avantage entre guillemets de la poésie par rapport à d'autres formes d'art que j'exprimais juste avant, c'est que en fait la poésie est un art lettré, et en fait quand on veut exprimer une vision d'entreprise ou s'exprimer sur par exemple écrire un manifeste, créer des slogans de communication pour l'interne ou l'externe, en fait l'entreprise, en fait on écrit beaucoup, on écrit des mails, on écrit plein de, on se présente, il y a un côté aussi de poétiser sa plume. Et à l'écrit et à l'oral d'ailleurs, en fait, la manière dont on parle, en fait, le choix des mots qui va faire qu'effectivement ça va être des envolées, on va faire un peu planer les mots en l'air ou pour donner un peu de rêve, ou juste avoir juste un argumentaire très plat et qui va être oublié, qui va pas toucher la mémoire émotionnelle de quelqu'un. Donc c'est, en fait, il y a plusieurs manières en fait de l'utiliser, et parce que justement c'est tous les slogans sont de la poésie, en fait c'est juste une juxtaposition de mots clés qui vont faire que ça va devenir une punchline, dans le sens où ça va vous marquer vous dans votre cœur.
Effectivement, ça crée de facto un angle de professionnalisation de l'écriture poétique, en tout cas par un de ces, j'ose le dire, un de ces side benefits, mais qui est peut-être le bénéfice principal attendu, elle, par l'entreprise, même si pour le participant, ce n'est qu'un des bénéfices. En parlant de professionnalisation, du coup, j'ai envie de demander, et ça c'est pensant de plus à Charlotte Steisel qui l'évoquait, par rapport au fait qu'au départ, quelqu'un qui vient dans un atelier d'écriture, donc pour enrichir sa pratique, la découvrir, mais à un moment, effectivement, on songe en disant, après tout, pourquoi pas moi? Et donc, de décomplexage en décomplexage, on vient à se dire, après tout, pourquoi je serais pas publié? Là, j'avais deux questions, en fait, autour de ça. En poussant à l'extrême, il y a eu, en fait, une époque, et notamment dans un genre particulier, mais c'est valable aussi pour d'autres genres littéraires aux États-Unis, où l'abus d'ateliers d'écriture, et notamment certains des plus fameux d'entre eux, les ateliers Clarion, en fait, dans le champ science-fiction et fantastique, avait abouti, de l'avis d'un certain nombre de lecteurs, de critiques, voire d'auteurs et d'autrices, à une forme, malgré tout, d'homogénéisation. Un truc, c'est qu'il y avait un moment un ensemble technique qui a beau être varié, hein, bien entendu, qui s'imite pas, il faut mettre l'adjectif avant, enfin, qui est sophistiqué, mais qui malgré tout lisse, rend les choses plus comme ceci, plus comme cela, parce qu'il y a cet effort de publiabilité qui est quand même fait, et ça pouvait aboutir à une forme d'homogénéisation en rejetant en fait des choses qui sont trop atypiques, trop bizarres, et qui pourtant peuvent apporter quelque chose à la littérature. Donc ça, c'était mon premier point.
Okay, je sais que...
Et l'autre où je me demandais, c'est effectivement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, où l'un des bénéfices immédiats qui permet aussi la libération de la parole, de l'échange, c'est qu'il n'y a pas de jugement stricto sensu. Ce moment, effectivement, on arrive dans, il va y avoir des textes qui sont publiables, d'autres qui ne le sont pas. Alors évidemment, les éditeurs ont des attentes différentes, et l'univers est vaste.
Malgré tout, on le sait tous, il y a beaucoup plus de textes qui cherchent des éditeurs que ce que l'édition française peut absorber, même si elle en absorbe énormément. Quoi. Donc, comment peuvent se positionner les mots, en fait, par rapport à un peu ces deux écueils, quoi. Enfin...
Alors, je suis contente, finalement, qu'on revienne sur cette question-là, parce qu'en présentant les mots au début, je disais que c'était un projet assez novateur, et pris en mon élan, je suis parlé de nos auteurs qui sont super, et puis je voulais quand même faire une parenthèse, enfin, pas une parenthèse, d'ailleurs, précise. Préciser aussi que ce qui est très intéressant dans ce que j'aime beaucoup moi dans ce projet les mots, c'est que finalement intégrer les mots, c'est pas venir pour des ateliers d'écriture, c'est faire partie d'un écosystème littéraire. On est une école qui vit au-delà des ateliers d'écriture. Je répondrai à tes questions précisément. Bien sûr, parce oui. que c'est un peu lié en fait. On vit au-delà des ateliers d'écriture. C'est un lieu qui reçoit continuellement des auteurs, des éditeurs, des expériences littéraires. On a des lectures performances, des dédicaces de textes. Enfin bon, les participants, les personnes qui viennent chez nous, elles ont continuellement des occasions de rencontrer tout ce champ littéraire français, enfin tout cet écosystème littéraire, et notamment des éditeurs, puisqu'on parle de ça plus précisément, qui est un milieu qui peut paraître un petit peu, d'extérieur, qui paraît fermé, et c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on ne sait pas comment rencontrer des éditeurs. Et là, voilà, un des défis des mots, c'est de permettre à toute personne de faire son chemin tout seul, mais d'avoir des points de contact, des rencontres. On fait des rencontres pro, par exemple, où des éditeurs viennent raconter leur métier simplement. Ils viennent simplement expliquer ce qu'ils font et c'est quoi le métier de l'édition et comment ça fonctionne. Mais pour beaucoup, ils repartent après avec une carte de visite dans la poche. C'en est qu'une, peut-être. Mais c'est une première porte vers ce monde de l'édition qui paraît loin et inaccessible. Alors, je reviens sur ta première question qui est comment on évite de formater. Moi, j'ai Laurent Benegui qui avec qui je suis d'ailleurs moi-même en atelier d'écriture, nous disait la dernière fois les techniques, c'est important de les connaître, mais après ça, il faut les oublier. Donc, je pense que ce qu'on apprend dans une école, c'est plein de techniques, énormément de techniques, et plus on prend d'ateliers d'écriture, plus on enrichit sa boîte à outils. Je sais de quoi je parle, moi j'en fais plein des ateliers d'écriture aux mots, et j'aime, et voilà. Donc plus on enrichit, plus on a technique, mais ces techniques-là, il faut juste les connaître pour savoir pourquoi on les suit ou pourquoi on les suit pas. Enfin, il faut les oublier tout aussi vite. Et ensuite, une fois qu'on les connaît, savoir qui on est. Savoir qui on est, ce qu'on veut écrire, quelle est ma propre voix. Et ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on cultive énormément mots, justement par le fait que les auteurs ne sont pas des formateurs et qu'ils ont chacun leur propre style. Hélène Frappa, qui est en train de donner un atelier chez vous, ça n'est pas la même plume que Frédéric Seri, ça n'est pas la même plume que Nicolas Farc, ça n'est pas la même plume que Martin Winkler. Et ils ont tous, enfin, j'en prends comme ça, ils ont tous réussi dans leur domaine, dans leur spécificité, parce qu'ils n'ont pas fait comme les autres. Donc, pour moi, c'est l'apport vraiment des mots, c'est ce côté inspirant, c'est d'accord, ok, donc il y a des techniques, je les assimile, mais en fait, il ne faut surtout pas que je fasse comme les autres, parce que sinon, c'est ce qu'il dit souvent à une personne, tiens, ton texte, il est intéressant, mais l'angle que tu utilises là dans ton texte, en fait, on l'a déjà vu 25 fois. Donc si tu veux faire un roman là-dessus, si tu veux faire un texte qui un jour sera publié dessus, change d'angle, parce que cet angle-là, on l'a déjà trop vu. Et voilà, donc surtout, distingue-toi.
Alors ça rejoint une chose, enfin que moi j'ai souvent vu apparaître dans des discussions, cette fois en librairie, des rencontres avec auteurs, donc cette fois qui sont pas centrées sur de l'écriture en action, mais plutôt sur de la discussion autour de leur écriture. Une des choses qui apparaît le plus clairement, je pense que la plupart des auteurs sont d'accord avec ça, c'est que par rapport à un vieux cliché qui existe, mais qui encombre encore beaucoup le truc de en fait l'écrivain qui écrit avec ses tripes, qui les pose sur la table et qui finalement a pas trop besoin de connaître tout ça parce que sinon justement il va être influencé et tout. En fait, on s'aperçoit qu'en réalité c'est le contraire, que l'énorme majorité des autrices, des auteurs et en particulier de ceux qui sont publiés grands et de façon multiple sont d'avides lectrices ou lecteurs qui se nourrissent énormément de leur lecture de façon très justement critique et orientée, et ensuite l'oublient, le digèrent ou l'intègrent dans leurs propres matériaux. Mais que ce côté, non, il n'y a pas besoin de connaître la littérature, finalement j'écris juste avec ce que je ressens, en fait, ça mène pas vers cette étape-là, en tout cas.
Non,
ça,
et puis, bon, je pense que maintenant... alors, justement, il y avait effectivement ce tabou un petit peu sur le fait que l'écriture, ça tomberait du ciel. On a le don de l'écriture ou on ne l'a pas. Bien sûr, il y a des gens qui ont une plume plus fluide, plus facile. Mais l'écriture... Clairement, ça s'apprend de la même manière que s'apprennent tous les arts, de la même manière pour devenir un grand sportif. Si on ne pratique pas, si on courir, il y a quand même 2-3 techniques pour bien. Il y a des gens qui sont plus à l'aise pour la course, mais il y a quand même des techniques pour mieux courir. Et ben l'écriture, oui, c'est un peu pareil, et ça s'apprend.
Et donc du coup, mais comme leur tourne peu à peu, enfin je voulais dire, oui. Mais il y a des participantes ou des participants, bien entendu, des mots donc qui ont à la fin de ce processus qui ont été publiés. Vous en avez cité quelques-uns. Je voulais juste faire une remarque incidente qui va dans le sens de ce qu'on disait ce soir, c'est qu'on a vu apparaître en France, donc alors c'est vrai près de 40 ans après les États-Unis, mais là il y a pas de course. Le fait est que c'est apparu récemment en France, donc des masters spécialisés en création littéraire qui effectivement sont dans le terme de méthode générale, sans rentrer dans les détails, mais sont effectivement un mélange entre un travail en groupe en fait de gens qui arrivent avec un projet qu'ils ont parfaitement le droit de changer en cours d'année parce que justement de nouvelles idées plus prometteuses peuvent leur venir, mais un projet qui en tout cas leur tient suffisamment à cœur pour s'être lancé dans un exercice qui est quand même long et intense, et puis avec le concours d'énormément en fait d'intervenants, beaucoup d'écrivains, pas mal d'éditeurs qui viennent effectivement cimenter, critiquer, montrer des choses, donc dans cette optique effectivement assez professionnalisante d'une certaine façon. Mais je me demandais par rapport à ça, et là je me tournais plutôt vers Vincent Avanzi, si dans des interventions de groupe de la Plume du Futur, il y a eu des participantes ou des participants qui, eux, sans parler de publication nécessairement, puisque là on est dans un univers plus élevé, mais qui sont ensuite, ont pris goût en fait à l'expression poétique et à l'écriture poétique, y compris pour eux-mêmes.
Clairement, et j'ai envie de dire tous après... Que tout soit passé ensuite à l'application après derrière dans la vie quotidienne, non, mais par contre c'est le but justement de redonner le goût de l'écriture et puis le fait de pouvoir soit écrire différemment et puis utiliser en fait la force des mots en fait pour leur quotidien. Donc tout, c'est justement ça, ce déclic-là, en fait, le fait de le pouvoir, de le vouloir, et puis de que ce soit possible aussi, quoi. Donc après, il y a des gens qui souvent en fait qui vont afficher au-dessus de leur bureau ou de leur chevet leurs poèmes qu'ils ont écrits en séance, ou des entreprises qui vont l'afficher, eux, justement, au sein de leurs locaux, ou qui vont s'en servir pour leur communication ou autre. Et après, c'est aussi une utilisation personnelle, que ce soit en famille, pour de faire une déclaration d'amour à sa femme ou son mari, que ce soit pour ses enfants. C'est vraiment redonner le goût de l'écriture. Moi, je demande, en fait, à chaque fois, en fait, comme les gens, en fait, qui viennent ne sont pas au courant qu'ils vont écrire de la poésie, parce que j'interviens dans des conventions annuelles où en fait ils font venir des intervenants extérieurs, donc ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Qui écrit de la poésie ou qui a écrit un poème sur les deux dernières années? Et il y a en général 2-3% des gens qui lèvent la main à ce moment-là. Et c'est ça le but, c'est de sortir de là en disant « Ouais, c'est possible », et puis en 15-20 minutes, j'ai écrit un texte qui est sublime tel quel, parce qu'il a été créé. Comme on est tous des poussières d'étoiles magiques, on est tous uniques, on peut tous créer une œuvre d'art unique. Et donc c'est là où les gens en fait comprennent que leur unicité est leur plus grande force et se connectent à ça. Et donc après, l'angle choisi sur le storytelling, sur l'écriture ou autre, c'est vraiment de partir aussi de sa légende personnelle. Et puis comme personne n'a la même expérience du monde ou la même expérience de vie ou la même connaissance du monde, on est chacun dans quelque chose d'unique. Et en fait, quand on se connecte à notre unicité, et ben on est dans un boulevard, on est dans une voie qui fait qu'on peut faire tout en fait, ce qu'on a envie de rêver de faire.
Tout à l'heure, il y aura une table ronde donc chez Ground Control qui ira beaucoup plus loin que notre modeste émission donc sur le pouvoir des mots et sur le travail de l'écriture. En tout cas, ce qui est clair, c'est que la littérature, la poésie et le travail le plus en profondeur possible, y compris dans des interventions brèves ou au long cours en fait sur l'écriture, joue à mon sens, et je pense que vous le partagez, un rôle absolument clé dans une ambition de réenchanter le monde, de lui redonner un petit peu d'envie de quelque chose qui soit pas triste et mortifère, ce qui est un peu trop hélas le quotidien, sans être pour autant dans le pur rêve justement abstrait. Il y a beaucoup de travail concret dans ce que vous mentionnez, travail sur les mots, travail sur soi, mais et de projection de soi en fait vers la société. Donc je trouve que c'est particulièrement captivant. Et donc je voulais vraiment vous remercier pour ce que vous faites au quotidien, puis pour avoir accepté donc cette invitation. Donc Charlotte Staisel, les Merci mots école toi. D'écriture, et Vincent Avanzi, donc le Chief Poetic Officer de La Plume du Futur. Merci, merci beaucoup.
Merci au beaucoup. Au
Libre et curieux. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.